Mais il est complètement fou, ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour à tous, bienvenue dans cette émission légèrement barrée, complètement à l'ouest, qui aborde un sujet qui submerge depuis quelques années la planète entière. Nous allons évoquer le numérique. Dans une récente étude de la Commission européenne, Women in the Digital Age, 3 hommes pour une femme travaillent dans les métiers du numérique. Rien ne prouve que les femmes soient moins réceptives au sujet, sauf une, moi, je l'avoue. Et je compte sur cette émission avec Philippe Boyer et son invité pour énormément progresser. J'ai 35 minutes pour le faire. Bonjour Philippe Boyer.
Bonjour Milly.
Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur innovation chez Covivio. Et je vous laisse tout de suite la parole.
Vous consultez votre smartphone toutes les 2 minutes dans l'attente fébrile d'une notification, d'un like ou d'un match tout en scrollant une quantité invraisemblable de contenu? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. À grand renfort de chauffeurs privés ou de livraisons à la demande, nous sommes devenus esclaves de ce maintenant tout de suite grâce à la technologie. En facilitant nos vies, des entreprises ont remodelé notre quotidien à leur image, hyper-travail, optimisation de soi, réussite à tout prix, le tout emballé dans le mythe d'un soi-disant monde meilleur, leitmotiv d'un genre de culte qui nous promet bonheur, paix, justice et vie éternelle. Certains diront que c'est le casse du siècle sur nos vies et sur nos esprits. Vive la connectivité infinie. À moins que nous prenions un peu de recul face à cette déferlante numérique. Non, il ne s'agit pas de prôner une énième ode à la déconnexion, mais plutôt de nous donner un coup de pied dans le derrière, histoire que nous ne prenions pas des vessies pour des lanternes, en suivant aveuglément des prophètes du digital qui nous promettent forcément monts et merveilles. Bref, posons-nous un moment et réfléchissons à cette nouvelle condition humaine façonnée par la technologie qui se doit d'abord d'être au service de tous. Tiens, ça me rappelle ce slogan de la SNCF, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Eh bien, nous y sommes et l'enjeu est posé. Vous l'avez compris, nous allons aujourd'hui parler de numérique, de progrès et d'humain. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest. Complètement à l'ouest.
Ah, merci Philippe de remettre au cœur de cet enjeu numérique qui nous bouffe à un certain moment. Eh bien, un mot qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, l'humain.
Complètement à l'ouest, l'invité.
Alors votre invité, Philippe, c'est PPC. Alors PPC, c'est pas une marque, mais c'est un nom, c'est un titre de noblesse. Qui avez-vous invité pour nous ?
Quel recul mon invité d'aujourd'hui, totalement geek, prend-il sur ce monde numérique dans lequel nous vivons ? Sa maîtrise du sujet, sa volonté de mettre le numérique à la portée de tous le rend presque incontournable pour qui veut comprendre ce monde nouveau. Parmi ses réalisations les plus emblématiques, il y a le podcast référent « Le Digital pour tous », ça tombe bien, qu'il a créé et qu'il anime presque tous les jours à 7h35 sur Twitter et suivi par plus de 40 000 followers, comme on dit. Et puis, à son tableau de chasse numérique figure aussi depuis plus de 10 ans la production de vidéos thématiques sur YouTube, vues par plus de 15 millions de spectateurs, sans parler de son activité de blogueur, de conférencier et de son activité professionnelle, on s'en doutait un peu, dans le digital. Pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir PPC pour les intimes. Bonjour PPC et bienvenue.
Bonjour Philippe.
Bonjour, bienvenue. Vous êtes un lefto alors ?
Oui, je suis un lefto. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.
Voilà, c'est ma règle de vie. À retrouver chaque jour, 7h35.
Sur Twitter.
Sur Twitter. Allez, feu des questions. Alors, voici la première.
Tout d'abord, je voudrais rentrer vraiment dans le vif du sujet en vous demandant si sur cette question du numérique, où on nous dépeint tantôt une société radieuse, tantôt une société futuriste, voire apocalyptique, dominée par les robots, est-ce qu'il ne serait pas enfin temps de sortir de ce débat entre enthousiastes de la révolution numérique et ceux qui prédisent finalement un cauchemar ?
Société radieuse ou société apocalyptique, futuristique, apocalyptique ? Moi, mon point de vue, c'est plutôt le suivant. On nous avait déjà fait le coup, lorsque les premières machines-outils arrivaient sur le marché à l'époque, je ne sais pas si vous en rappelez, on avait dit que ça allait tuer les emplois. Nous allions rentrer dans une société robotisée. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé, me semble-t-il. Je sais pas ce qu'en pense Billy.
On est dans un autre curseur, quand même plus rapide.
Il y a une accélération.
Ah oui.
Il y a une accélération. Mais plutôt que de nous faire miroiter, je dirais, une société radieuse ou à l'opposé, un monde cauchemardesque, il me semble peut-être plus intéressant de se poser la question du monde que nous voulons. Du monde que nous voulons pour vous, pour moi, pour nos enfants, et peut-être pour les enfants de nos enfants. Et peut-être revenir aussi, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus avec ce digital.
avec ce numérique, avec ces accélérations, il y a beaucoup d'inconnus. Et ces inconnus, en fait, elles nous font peur, c'est évident. Et peut-être que le sujet, c'est de dire, c'est peut-être des opportunités, il y a peut-être des champs pour prendre un peu de temps face à cette accélération, pour se poser plein de questions sur le pourquoi, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on peut faire. Plusieurs postures, d'ailleurs, possibles face à cette accélération. On le voit, il y a ceux qui font l'autruche. Ouais, qui font l'autruche, c'est-à-dire qu'ils baissent la tête dans le sable et puis ben, ils attendent un peu. Y a ceux qui se disent aussi, bon, ça attendra bien ma retraite, ce truc-là. Alors, on voit ça dans pas mal d'entreprises aussi, hein. Il y a ceux qui se disent que c'est foutu. Voilà, le truc, ben, les dés sont pliés, c'est trop tard. Il y a aussi ceux qui disent, ben, on va prendre le temps, peut-être perdre le temps de faire des études, aussi d'étudier les choses, de poser des questions un petit peu, faire à travailler des cabinets d'études hein, qui vont nous donner des résultats, et puis on va attendre un petit peu ces résultats, puis quand on nous les donne, ben, ils ne sont pas tout à fait ceux qu'on attendait, donc on va relancer une étude. Et puis les résultats seront peut-être d'ailleurs obsolètes face à cette accélération. Et puis il y a ceux qui se disent, et moi j'aime bien prendre cette image, on trouve dans Matrix, vous savez, Neo qui, quand à un moment donné, il est attaqué par tous ces hommes en noir qui lui tirent des balles. À un moment donné, il y a cette partie magique dans le film où il va lever la main, il va dire stop. Et quand il dit stop, on a toutes ces balles qui tombent. Ouais. Et donc là, c'est intéressant, ça veut dire que Neo reprend la main, reprend et devient le maître des horloges. Il se dit, je vais reprendre la main. Et je pense que c'est ça, ce sujet, qu'il faut qu'on fasse. Donc, c'est ni le monde merveilleux des bisounours qu'on nous promet, ni cet avenir de cauchemar que l'on peut voir dans tous les films de science-fiction. Je pense que c'est juste l'opportunité de se dire, on se repose, et qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut s'emparer de ce monde numérique qui nous permet, je pense, de construire énormément de choses avec beaucoup de sens. Mais peut-être qu'il faut remonter un peu sur le why, le pourquoi, le à quoi on sert.
Alors, voilà. J'aime bien cette notion de reprendre la main. Et finalement, ça replace l'homme au centre des choses. Et comment, justement, doit-on faire pour remettre l'individu au centre de cette révolution digitale?
Moi, je pense qu'il y a plusieurs clés. C'est-à-dire que cette accélération, elle amène mécaniquement, bah, tout le monde ne part pas à la même vitesse. Donc, on a un sujet de société, c'est l'inclusion numérique.
On va en parler,
c'est super intéressant. Je pense que le propos est de se dire, et si on revenait un peu sur le sens, en fait, et si on revenait un peu sur une logique peut-être de projet de société, peut-être une vision. On a besoin de vision, on a toujours eu besoin de vision, de choses qui vont nous amener une envie de se battre, de ne pas se laisser faire. Donc ça va demander aussi beaucoup de leadership dans les entreprises, hein, avec des patrons dont on attend, bah, qui nous amènent aussi du sens, une vision de vers où on doit aller, se porter. Et puis ça demande aussi, je pense, des qualités. Moi j'aime bien me poser aussi cette question par rapport à l'accélération du numérique. C'est pas de se dire, on me demande souvent, c'est quoi le futur? Moi j'ai envie de dire, je ne sais pas ce qu'il va y avoir de nouveau. J'ai envie de me poser plutôt la question, qu'est-ce qui va rester?
C'est pas mal, mais on peut comprendre aussi que c'est une pensée qu'on avait connue, nos futurs.
Non, il y a du futur, bien sûr,
mais on sait pas lequel.
C'est passionnant, on ne sait pas lequel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire quelles sont les valeurs qui vont rester. Et les valeurs, pour moi, ça va être de la bienveillance, ça va être de la confiance, ça va être de la sécurité, parce que le numérique et la sécurité, c'est juste un enjeu
assez
fou. Oui. Et puis, surtout, je pense que c'est du respect des différences, du respect de la confiance. Le numérique, c'est juste formidable, c'est-à-dire que ça brouille les cartes. Ça permet, là où on était peut-être avant sur des rails, où on était né dans un endroit, dans une ville, dans une région, dans une catégorie socio-professionnelle, avec le numérique, on peut rencontrer n'importe qui dans le monde, des gens qui n'ont pas le même parcours que vous, des personnes qui ont fait d'autres types d'études, qui sont plus jeunes, plus âgées, mais qui ont souvent des points communs avec vous, et ça c'est formidable. Donc ces rencontres, elles sont juste magiques avec le numérique, et il faut savoir les saisir.
Alors, j'aime bien cette notion d'humanisme replacé au centre du numérique, et justement tout à l'heure on parlait de la question de ce qu'on appelle de l'électronisme, autrement dit le fait qu'aujourd'hui il y a environ 13 millions de personnes en France, à peu près 23% de la population française, qui se dit mal à l'aise avec le numérique. Comment faire pour que ce fossé numérique régresse finalement, et que le numérique on le mette réellement à la portée de tous?
C'est pas évident, hein?
C'est pas facile.
Ouais,
c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça va chercher dans l'intime, en fait. Ouais. Ça va chercher. Et quand on parle d'électronisme, et Philippe, vous avez raison de ne pas dire c'est 23% de la population, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est un Français sur cinq. C'est un Français sur cinq. C'est juste énorme. Ça veut dire qu'autour de nous, on en a tous. Mais il faut aussi se dire qu'en chacun de nous, on a tous une part d'électronisme. Je pense que ça aussi, ça permet de se remettre un peu à la place. Prenez un sujet, l'électronisme. C'est pas parce que quelqu'un est super à l'aise sur Snapchat qui va savoir être à l'aise quand il va devoir trouver un boulot sur un site web. Ça change tout. Donc ça veut dire que... Et le sujet de l'électronisme n'est pas un accès aux outils. On a globalement tous un accès aux outils.
Avec les smartphones,
on le voit même dans la rue, des personnes qui sont sans domicile fixe se chargent leur téléphone aux bornes, aux panneaux de co où il y a une prise USB, ils peuvent se recharger, donc ils sont connectés. Le sujet, c'est l'usage. Et donc là, il y a un enjeu énorme. C'est pour ça que j'ai lancé ce podcast quotidien, le Digital pour tous. L'idée, c'est comment on peut tendre la main à ceux qui, peut-être, ont raté une première marche, mais on ne peut pas avoir une France à deux niveaux. C'est-à-dire que s'il y a de l'électronisme et si on ne fait rien pour... Il y a une fracture numérique. Qui dit fracture numérique dit une fracture sociale. On ne peut pas faire ça. Et ces 23% de personnes, on les retrouve aussi dans les entreprises. Et puis, ils n'osent plus, parce que forcément, ils ont raté une marche, deux marches, donc ils font semblant. Donc c'est terrible de faire semblant. Vous savez, si vous dites, on va traverser une rivière, on traverse une rivière, et vous dites, vous vous retournez, vous dites, vous savez tous nager, et que tout le monde dit, oui, on sait nager. Mmh. Et qu'au milieu, il y en a un qui vous dit, oui, en fait, je ne sais pas vraiment nager. Ça devient très compliqué. Donc on a, je pense, un rôle, et chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui, a un rôle de filer un coup de main. Parce qu'on connaît tous un truc particulier sur le digital où on est à l'aise. Et il faut accepter que les autres ont développé d'autres choses. Et je pense que c'est par ce partage collectif qu'on peut tous grandir. C'est très important, parce que le digital, moi je le vois comme une opportunité. Ce ne sont que des outils. Il faut qu'on puisse avoir cette palette d'outils supplémentaires à notre disposition pour exercer notre cœur de métier, notre activité.
PPC, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'électronisme sera aussi dangereux et important que l'illettrisme l'a été ?
C'est complètement ça. C'est l'illettrisme numérique. Merci, Billy. C'est exactement ça. C'est un illettrisme numérique. Il y a un enjeu très fort. Et il faut qu'on accompagne toute la société pour qu'elle ait cette... avantage et cet usage, qu'elles sachent s'emparer de ces opportunités. Et après, les gens vont construire ce qu'ils veulent faire. Mais on ne peut pas... je pense que c'est crucial. C'est comme savoir écrire. C'est très important.
Concrètement, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette question de l'électronisme ?
Je pense qu'il faut se dire, il y a plusieurs façons. Ce n'est pas un truc qui se décrète. Je pense que c'est un mouvement. C'est ce qu'on essaye de lancer avec le Digital pour tous. C'est de se dire, on a une petite communauté. Tous les matins, on a, pendant l'enregistrement du direct de ce podcast, 200 personnes qui participent. C'est pas beaucoup, mais c'est énorme. Vous imaginez, ça veut dire que vous avez un amphi de 200 personnes qui, tous les matins, participent. Et c'est que le début, puisqu'on enregistre le podcast. On a monté un site web cet été de façon à donner les clés à chacun de compréhension. Et puis, on a un grand projet, c'est d'organiser des rencontres en face à face, en vraie vie, parce que c'est comme ça que les messages passent le mieux. Et on le voit, le digital, ça a toujours été un facteur de rencontre physique. C'est le truc qui est magique. De l'époque des blogueurs en 2005, finalement, c'est des gens qui se sont contactés au départ par du numérique, mais qui n'avaient qu'un seul plaisir, c'est se rencontrer pour de vrai.
On va rester sur ces grands enjeux du numérique. Et avec cette question, avant qu'on aborde plein d'autres thèmes, on voit que le sujet est immensément riche. Finalement, vous parliez tout à l'heure, PPC, de projet de société. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de la société que nous voulons inventer avec le numérique ?
Moi, je crois que c'est la question qu'on peut se poser, c'est de dire, humain et numérique, qu'est-ce qu'on fait avec ? Qu'est-ce qu'on fait avec ? Et je crois que la question, c'est de se dire, il ne faut pas le prendre sur l'outil, parce que la technologie est à la fois le problème et la solution. Et quand on démarre et qu'on réfléchit par les outils, c'est là, à mon avis, on se trompe. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas bien. C'est-à-dire qu'il faut remonter. Et les startups ont l'habitude de ça. C'est-à-dire qu'elles remontent sur le pourquoi, le fameux why, ce qu'elles appellent
le why. Et l'usage.
Le sens, le pourquoi. Et donc, plutôt que réfléchir en commençant par le quoi et le comment, on démarre par le why. Moi, j'ai envie de démarrer aussi, et je crois que c'est clé, il faut démarrer par le qui, par les personnes. Et toutes les startups le disent, on démarre d'abord par les utilisateurs. Et c'est, je pense, ça. Donc la question qu'on peut se poser, c'est finalement, pour quelle société voulons-nous œuvrer ? Moi, je n'ai pas les réponses. Les réponses, elles sont, je pense, en chacun d'entre nous, sur qu'est-ce qu'on a envie de créer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de laisser à nos enfants, qu'est-ce qu'on a envie que nos enfants puissent faire, quelle société meilleure, pour quelle société meilleure, quelle est la part que l'on peut donner chacun, nous. C'est ce qu'on appelait la part du colibri, qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire à sa petite échelle pour faire en sorte qu'il y ait un monde plus vivable. La lutte contre l'électronisme est très importante. Cette inclusion numérique, elle est vraiment clé. On en parlait tout à l'heure. C'est ça qui va faire que la société peut bouger. Je ne sais pas, moi, pour vous, Philippe, vous avez envie de faire quoi C'est quoi le monde de demain pour
vous ? Je vois que vous me retournez la question au PPC.
C'est bien joué.
On va continuer avec une question sur le qui, justement. Le qui, ce sont donc des personnes. Et les technologies, c'est notamment aussi la robotisation, avec des chiffres un peu fous qui ont circulé, dont 14% des métiers qui pourraient disparaître d'ici à 20 ans, selon l'OCDE. Est-ce qu'on est prêt à affronter cette transformation ?
Alors, c'est assez brutal, effectivement. Quand on lit tous ces chiffres, ça fait vraiment peur. Et en fait, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de métiers qui vont disparaître ou est-ce qu'on parle de tâches qui vont disparaître ? Si on prend l'intelligence artificielle, il y a deux façons de regarder le sujet. La première façon, c'est de dire « Waouh, c'est terrible, ça va tuer des emplois, ça va tuer des tâches ». L'autre façon de le regarder, c'est de dire « Waouh, c'est formidable, plus jamais un humain ne fera le boulot d'un robot ». Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tâches qui sont faites et qui sont des tâches un peu aliénantes, un peu de robots. On le voit aujourd'hui, hein, il y a des tâches physiques, les robots ne savent peut-être pas encore le faire, ça viendra peut-être. Et donc tout le sujet de transformation, parce que c'est rapide, parce que c'est violent, parce que c'est brutal, parce que peut-être que tout le monde ne peut pas passer la marche aussi, donc il va falloir mettre beaucoup de formation et d'accompagnement. On avait ça au départ avec les machines-outils, on s'est dit ça allait tuer des emplois. Non, ça a tué des tâches. Le sujet, c'est comment on accompagne pour que les gens gardent leur cœur de métier, puissent remonter un peu plus haut. Et finalement, vous vous rappelez ce film que vous avez peut-être vu, Le Grand Bain, avec Philippe Catherine. Mmh. Il y a une scène, elle est assez extraordinaire, et je salue mon ami David Davicker qui a sorti cette scène-là.
Qui est sur Radio Classique.
Qui est sur Radio Classique aussi, donc un grand coucou à lui. Et qui finalement a spoté cette partie de film où vous avez Philippe Catherine qui joue le rôle de quelqu'un qui travaille dans une piscine, qui n'a pas forcément un niveau Bac plus 17, voilà, qui fait quelque chose d'assez simple. Et il y a une scène très forte où il y a un consultant un peu arrogant qui lui explique comment, voilà, avec une simple tablette, il va pouvoir dorénavant gérer la piscine, le niveau de pH, etc. Et Philippe Catherine, à un moment donné, lui dit « Ok, donc moi, qu'est-ce que j'ai à faire ?» Et le consultant lui répond « Rien ». Et Philippe Catherine dit, mais et moi alors, qu'est-ce que je fais ? Et le consultant lui répond, tu t'occupes de ranger les bouées. Notre rôle à nous tous, c'est de faire en sorte que cette situation n'arrive jamais.
Merci. Alors, on va faire un petit break avec PPC, parce qu'on a encore d'autres questions. Plein d'autres questions. Mais vous le savez, c'est une tradition complètement à l'ouest. Ce sont aussi des idées pour s'ouvrir la tête, que voir, que visiter, où aller. Je vous propose le carnet de voyage.
Complètement à l'ouest, carnet de voyage.
Alors, cette fois-ci, je vous emmène effectivement à l'ouest. Chose promise, chose due, nous allons en Charente-Maritime pour annoncer une future exposition qui s'appelle Climat Océan au Musée Maritime de La Rochelle. Alors, ça débute le 8 novembre pour un rendez-vous immersif et interactif sur le thème du rôle des océans dans la fabrication du climat. Et on peut le dire, c'est plus que jamais d'actualité. Pour plus d'infos, si vous êtes intéressé, voici le site internet Musée Maritime. N'oubliez pas le E à musée, hein. Musée Maritime. larochelle.fr.
C'est l'une des expositions phares de cet automne, avec la première rétrospective d'une telle ampleur sur la créatrice designeuse Charlotte Perriand. Elle a été une véritable visionnaire, tour à tour urbaniste, designer, photographe et scénographe. Elle a aussi collaboré avec Le Corbusier, même si elle s'en est assez vite éloignée pour voguer seule en inventant et en créant des objets du quotidien. L'exposition Charlotte Perriand, c'est jusqu'au 24 février 2020 à la Fondation Louis Vuitton dans le 16e arrondissement. Et ça vaut vraiment le détour.
Voilà, et je rappelle que pour tous ceux qui viendront dans la capitale pour aller à la Fondation, il y a des petites navettes électriques et gratuites qui partent de plusieurs endroits de la capitale. Allez, moi je vous emmène à l'opéra. Vous avez de la voix, les garçons ? Oui, un petit peu ?
Oui.
Alors, plutôt, quand je dis l'opéra, au musée, avec l'exposition Degas au musée d'Orsay. Bien sûr, on va découvrir le portrait de l'opéra de Paris au 19e, à travers des dizaines d'œuvres iconiques. Tout le monde connaît La Loge ou La Petite Danseuse. Mais ce qui frappe aussi en parcourant cette exposition, c'est que Degas peint différemment. C'est-à-dire qu'il invente de nouveaux cadrages, tel un photographe en cherchant à exprimer le mouvement en peinture. Il dira d'ailleurs... Le secret, c'est de suivre les avis que les maîtres nous donnent en faisant autre chose que ce qu'ils ont fait. Alors, Degas à l'Opéra, c'est jusqu'au 19 janvier prochain au Musée d'Orsay. Et puis l'amour, toujours l'amour, le palais de la découverte, décortique l'amour dans une grande exposition qui a débuté il y a quelques jours et qui va durer jusqu'à la fin du mois d'août 2020. L'amour, on aimerait que ça dure jusqu'à la fin de la vie. Mais bon, ça c'est autre chose. Du désir à l'attachement, en passant par les preuves d'amour et l'amour sur Internet, le musée nous dévoile tout ce qui se passe derrière ce sentiment universel. C'est au Palais de la Découverte, avenue Franklin Delano Roosevelt, c'est dans le 18e arrondissement de Paris. Profitez-en. Philippe, on va retrouver tout de suite PPC, on a encore beaucoup de choses à lui demander.
Bien sûr, beaucoup de sujets sur ce numérique, on ne pourra pas tous les écluser, on le sait bien, mais quand même, début novembre, on va assister à une petite révolution en France, puisque nous allons pouvoir accéder à divers services publics au moyen de l'application Alicem. Alors Alicem, ça signifie application de lecture de l'identité d'un citoyen en mobilité, et ceci en scannant notre visage. Est-ce que la France bascule sur un terrain glissant en lançant une telle application, selon vous ?
Moi, je pense pas. Enfin, je pense que c'est. Enfin, moi, j'aime préférer appeler Alicem l'authentification certifiée en ligne sur mobile. Ouais. C'est le sujet. Et cette authentification, on la vit déjà sur nos téléphones, quelles que soient les grandes marques de téléphones un peu haut de gamme il y a 3-4 ans et ça se généralise. On a pris l'habitude, finalement, de cette reconnaissance faciale. Le vrai sujet, c'est qui va gérer cette donnée. Qu'est-ce qu'on va en faire ? On a vu des dérives cet été, hein, avec des applications qui permettaient de nous donner 20 ans de plus. Waouh, c'est chouette. On attendait tout ça, mais tout le monde est tombé dans le panneau, ou presque. Voilà,
enfin, le résultat n'était pas terrible.
Vous étiez superbe, Billy. Vous étiez vraiment superbe.
Oh, la ride était creusée, hein, je peux vous dire.
Et Philippe gagne à être connu, parce qu'il est vraiment très très beau dans 20 ans.
Il est trop fort, je vais le dire.
Il est trop fort, ce PPC. Nous revenons du futur. Ouais, donc ça fait un peu peur. Et c'est vrai qu'on est toujours dans ce sujet du digital. Les technos vont très vite. On a un peu peur de ces dérives. On avait dit la même chose quand des caméras se sont mises dans les villes. Ouais, c'était à peu près la même chose. Ça avait peur, on allait être filmé de partout. Et de vous à moi, je pense que ça y est, nos visages sont scannés de partout. On utilise Paraf quand on se balade à l'étranger. Voilà, c'est déjà fait. Donc le sujet maintenant, c'est de se dire, bon, est-ce que ça amène un plus pour nous ? Faut se méfier, c'est vrai. Faut toujours être vigilant, c'est vrai. Maintenant, il y a peut-être aussi des vertus. Ce qui est très intéressant là-dessus. Alors après, il y a encore d'autres versions derrière qui font encore plus peur, puisqu'on parle du deepfake. Vous savez, le deepfake, c'est cette capacité à scanner votre visage et à en faire des vidéos où vous pouvez intervenir dans un cadre. Alors peut-être dans un film de Far West, et ça fera plaisir à Philippe, parce qu'on sera complètement à l'ouest. Il a toujours rêvé de jouer avec John Wayne. Mais ça peut être aussi un film pornographique. Et là, c'est peut-être moins drôle, quoique...
Alors, je vous laisse le soin de ce propos. En tout cas, sur ces questions-là, les GAFA ont beaucoup été au centre du jeu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la pression monte, en tout cas ces derniers mois, a monté considérablement sur les GAFA. Tim Cook, d'ailleurs, le patron d'Apple, a même reconnu il y a quelques jours que les GAFA ont été arrogants. C'est ce mot utilisé par Tim Cook. Et par ailleurs, la France est en première ligne pour faire aussi adopter sa taxe GAFA, suivie il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu l'actualité, par l'OCDE. Est-ce que la fin prochaine, comme certains le prônent, des Google, Apple, Facebook et autres, est-ce que c'est la fin prochaine de ces poids lourds du numérique, ou finalement, ils vont continuer à voguer sur leur vie numérique et sur leur développement ?
De mon point de vue, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est on va parler de ces GAFA dont on vit effectivement. Et donc il y a le sujet du démantèlement, Google l'a bien compris, c'est pour ça qu'ils ont créé Alphabet. Et là on est face à une loi du numérique. C'est-à-dire quand vous démantelez, c'est les mêmes en termes de taille, sauf que c'est plus petit, et donc il y a moins d'effets. Il y a moins d'effets quand vous faites des petits, ben, ça fait moins d'effets puisque on le voit bien, la taille est vraiment quelque chose d'exponentiel et qui permet à des grands acteurs de tenir. Le vrai sujet... c'est pas forcément de démanteler les GAFA. Qu'est-ce qui se passe à l'Est ? Je suis désolé pour l'émission qui est à l'Ouest.
Mais on peut parler de l'Est
qu'est-ce
aussi.
Qu'est-ce qui arrive ?
Il va même chambouler le titre de l'émission. Il
non,
est fort.
J'en suis pas encore là.
On va pas le laisser faire.
Non, je sais que je vous allais pas vous laisser faire. Non, mais si on parle de Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi,
les
géants chinois, les BYATX, c'est encore autre chose. Quand on voit le succès d'applications comme TikTok où nos enfants se filment, avec cette application qui marche très très bien, je crois que c'est la troisième application au monde sur les 13 ans et plus,
juste derrière Instagram, qui est lui-même juste derrière Snapchat. Qu'est-ce qui se passe sur ce sujet-là? Ben, ça veut dire que nos enfants ont donné leur visage, on parlait de cette authentification visuelle, ont donné leur visage et leur voix à ces applications chinoises. Donc on ne connaît pas les sujets, donc c'est ces nouveaux géants. Et donc la guerre entre les GAFA, ce qui manque peut-être, ce sont des acteurs forts et puissants en Europe pour pouvoir jouer.
Alors PPC, il y a une tradition dans cette émission, complètement à l'ouest, qui a été élaborée par Philippe. Philippe nous met toujours une musique qui colle avec le sujet d'aujourd'hui. Alors Philippe, je suis très étonnée, parce qu'on va écouter Sunset Lover avec Petit Biscuit. C'est vraiment de la radio, de la musique comme quoi, hein, on est vraiment immergé dans notre studio. Musique électronique, c'est un rapport, bien sûr, avec le numérique. Qui vous a conseillé ce titre? Je ne connaissais pas électroniquement parlant au niveau musical.
Donc en effet, on va écouter Petit Biscuit. Alors c'est une des récentes révélations de la musique électronique française. On ne pouvait pas moins faire pour ce thème aujourd'hui du numérique. Alors, vous verrez que c'est un son épuré, mélodique, en effet avec Sunset Lover. Et puis un remerciement à Sophie pour ce choix judicieux en matière de programmation musicale.
Elle va se reconnaître,
elle
Sophie.
Elle se reconnaîtra.
Bon allez, c'est pour vous PPC, parce qu'on s'est dit que pour un mec connecté comme vous, il fallait cette musique. Disque du mois, Sunset Lover, c'était forcément pour un invité très connecté. Même sa montre est connectée, Philippe, vous avez remarqué.
J'ai vu ça, ouais.
Allez, PPC, le retour et les dernières questions de cette émission.
Alors, on a beaucoup parlé d'inclusion numérique. Peut-être une question par rapport à la vie de l'entreprise où finalement, on commence à voir apparaître l'analyse faciale pour l'embauche. Alors, c'est encore très marginal et c'est notamment l'entreprise Unilever qui recrute grâce à des algorithmes et à la reconnaissance faciale. PPC, est-ce que c'est un véritable progrès ou c'est un gadget?
Moi, ça m'a fait un peu rire quand j'ai vu cette information. C'est-à-dire, je me dis, c'est incroyable, l'employeur va enfin pouvoir utiliser la technologie pour nous dire qu'on a la tête de l'emploi. Waouh, ça, c'est du progrès, c'est fantastique. Et puis, je me suis dit, c'est bizarre quand même comme approche, parce que ça veut dire que c'est le fait de rentrer dans une case. C'est curieux, c'est pas tellement la tendance, en fait. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de se nourrir avec des gens différents. Si c'est pour prendre des clones, c'est pas très compliqué. Ça, ils ont l'habitude. Donc, en fait, c'est pas
là-dessus. Moi, je pense que le clonage corporate, c'est juste un non-sens dans une société qui va très vite, où il faut savoir marier différents talents, et c'est avec ces talents-là que les boîtes peuvent aller beaucoup plus vite. Donc pour moi, c'est un non-sens économique, c'est un non-sens relationnel, c'est un non-sens managérial même. Et on peut même se demander si le DRH qui utilise ça va oser passer lui aussi l'entretien d'embauche en utilisant cet outil, voir s'il est très courageux, faire passer cet entretien d'embauche à l'ensemble des membres de son COMEX.
Oula.
Les courageux, lever la main, je pense qu'il n'osera pas le faire. Donc, moi, j'ai un bon principe avec le numérique.
C'est un test pour l'instant.
J'ai un bon principe avec le numérique. Ne faites jamais aux autres ce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse à vous.
En tous les cas, notre invité PPC n'a pas de langue de bois numérique.
Non, mais c'est aussi ce qu'on attend de lui.
Ah oui, mais très très bien.
Là, peut-être une dernière question, parce que en effet, le temps presse. Hein. Elle va être excellente.
Elle est excellente.
C'est tout simplement pour demander à PPC. Quels vont être les thèmes de vos prochains podcasts ?
Ah, pas mal. Ça.
Alors, il y a plusieurs réponses. Ça, c'est l'instant publicitaire. Merci beaucoup.
Il doit être court.
Il va être très court.
Donc, il va vous coûter cher. Allez-y.
J'ai trois podcasts en ce moment. J'ai le digital pour tout. Je vais vous parler des thèmes, comment ça marche. J'ai un deuxième podcast qui s'appelle l'influence digitale. Donc là, c'est des interviews, parce que l'influence, c'est un truc totalement incompris. Des interviews de présidents, d'agences de pub, de directeurs marketing, d'influenceurs. Et le troisième podcast que je sors, il est avec mon ami Jérôme Bonaldi. Ça s'appelle Pour de vrai. C'est un truc sans langue de bois, où on interroge des patrons de la transformation digitale, mais on va leur demander de nous raconter la vie pour de vrai. C'est-à-dire comme quoi, c'est pas le monde des bisounours, et c'est un peu compliqué de faire ces modifications. Sur le sujet du digital pour tous, les sujets à venir, en fait, le principe, c'est que je n'en sais rien. Le principe, c'est que chaque matin, je demande aux auditeurs qui écoutent de me proposer le sujet du lendemain. C'est eux qui votent, et il reste 23h30 pour travailler le sujet du lendemain.
Et préparer le sujet du lendemain.
Ouais, alors le truc qui est génial en plus, c'est que c'est les auditeurs qui le préparent. Donc ça change tout le système de la radio, où finalement c'est les auditeurs qui font le contenu, mais massivement, hein, c'est tous les jours. Donc c'est super. Je ne sais plus quel ami animateur me disait « t'es en train de réinventer la radio ». J'en sais rien, mais on est en train de faire un espèce d'ovni numérique. On verra bien ce que ça donne.
Est-ce que quand on vous écoute, c'est à la portée de tous, si on est grand débutant, grand ignorant?
C'est fait exprès. Le but, c'est d'aider ceux qui démarrent. Mmh. Voilà. Et donc, c'est très complexe. Et c'est pour ça, grâce au direct et grâce aux retours qui sont faits en direct par les auditeurs, ça leur permet de temps en temps de dire hey, là, t'es en train d'utiliser du jargon, de la novlangue, on ne comprend pas. Mets les choses de façon simple. Et ça, c'est ça la vertu. Le principe, ça s'appelle le digital pour tous.
Est-ce qu'il y a des retours, ces fameux auditeurs qui sont sortis de certaines chroniques plus intelligents, ils vous le disent ?
Oui, alors moi j'ai eu plein de retours, tous les jours.
Mais c'est important les retours.
Ah mais là, vous savez, les Américains disent
moteur, hein.
Feedback is a gift. Ouais, ben voilà. C'est le retour, c'est un cadeau. Et j'ai des cadeaux tous les jours de personnes qui me disent merci, j'ai compris. Un jour, des personnes m'ont proposé un sujet et j'ai dit en direct, je n'y connais rien. Et c'est vrai, je n'y connaissais rien.
Du courage.
Belle preuve d'humilité en tout cas.
Et j'ai eu des retours de gens qui m'ont dit, mais si toi tu n'y connais rien, alors nous aussi on a le droit de rien y connaître. Donc ça a détendu tout le monde. Génial.
Bravo, moi j'ai qu'un mot, bravo. Il m'a convaincue, hein, alors qu'au départ j'ai dit je suis peut-être une des femmes qui est le moins accessible, enfin moins ouverte. Ça me fait peur. Peur parce que j'ai l'impression, comme beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, peur que mon cerveau ne soit pas programmé pour. Alors voilà le problème.
C'est pas une question de cerveau.
C'est pas une question de cerveau.
Non, c'est on prend le temps. On va faire les choses gentiment. Et vous allez voir. Billy, alors je sais pas si vous serez de lever le matin à 7h35.
Non, il faut que j'ai Twitter déjà.
Voilà. Sinon, Billy, on est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Google, Spotify, Deezer. Ah. C'est à la réécoute.
D'accord.
Voilà. J'ai essayé de faire un truc un peu bizarre. D'abord, pour moi, le podcast, au départ, il y avait ce que j'appelle, Billy me pardonnera, le surgelé de la radio.
C'est-à-dire que, ouais,
voilà, on faisait des émissions, puis il y avait du surgelé de la radio. Ça, c'est les radios qui font du très bon boulot, d'ailleurs, c'est passionnant. Il y a les podcasts natifs, et j'essaye, moi, d'inventer une nouvelle catégorie, qui est le podcast live, interactif, conversationnel, en co-construction avec son audience.
En tous les cas, par rapport au début de l'émission, je vous remercie infiniment, parce que j'en sais beaucoup plus.
Merci infiniment, PPC, de nous avoir donné cette boussole pour nous guider dans ce monde numérique. C'est bien la moindre des choses pour complètement à l'ouest. Je rappelle que pour qui veut comprendre la chose numérique, il faut s'abonner à votre podcast Le Numérique pour tous, ou alors pour
le digital,
les leftos,
le digital pour tous,
ou alors vous écoutez en direct presque tous les jours de la semaine sur votre compte Twitter @ppc. Merci Billy, merci à toute l'équipe de Radio IME qui a œuvré à la préparation de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest.
Et là, on va affoler notre boussole. Parce que le mois prochain, ne ratez pas cette émission. Pour Complètement à l'Ouest, on aura les quatre points cardinaux, dites-donc.
On va parler en effet géopolitique. Et Dieu sait si l'actualité actuelle est fournie sur ce sujet. D'ici là, bon vent et cap à l'Ouest, Complètement à l'Ouest.
Je vous embrasse.
Mais il est complètement fou, ce mec.
Alors, promets-moi de pas bouger. Ah, bon, c'est d'accord.
Complètement à l'Ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.